A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Des yeux verts, une peau blanche et un épiderme toujours à l'épreuve de l'humain. Bonjour Nancy Houston.
Bonjour Yasmine.
Notre invité en sol majeur est né très loin de Paris. Où ça exactement? Je dirais dans le corset du protestantisme au Canada. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est justement très attachée au mouvement. Le mouvement du piano, le mouvement des femmes et de l'écriture, le mouvement de l'eau. Et depuis plus de 30 ans, cela produit un fleuve de mots, de pensées, de récits autobiographiques détournés, d'essais, de théâtre, essentiellement en français. Et pourtant, cette Canadienne anglophone de naissance ne perd pas le Nord, impossible identitairement, sa spécialité étant de fouiller dans les tiroirs intérieurs de l'âme et dans cette notion du bien et du mal qui nous phagocyte l'esprit depuis quelques cantiques ou quelques sourates. Mais qu'y a-t-il de mal à être une bad girl, titre de l'un de ses romans? Et quel lien peut-il y avoir entre le terrifiant Kampuchea démocratique de Pol Pot au Cambodge et notre romancière blanche et bobo? Je la cite dans Lèvres de pierre, son tout nouveau roman, et la citerai encore et encore. Nancy Houston, est-ce que, en général, vos romans démarrent à partir d'un son, d'une image ou d'un mot?
Oui, je suis extrêmement sensible au son. C'est vraiment les oreilles qui priment chez moi, sur l'ouïe qui prime sur tous les autres sens. Et même si j'ai tendance à dire que je ne suis pas du tout attachée à ma terre natale, à ma province natale surtout, l'Alberta, pour toutes sortes de raisons, je m'aperçois que le son que je valorise par-dessus tout, c'est le son d'une rivière qui coule. Or, le nom de ma ville natale, Calgary, veut dire, dans une des langues andiennes d'alentour, « clear running water ». Ça veut dire « l'eau claire, limpide, qui coule ». Et donc, finalement, je pense que je suis plus attachée à ce signifier que je ne pensais.
On va sans doute y revenir. En tout cas, votre en sol majeur va de façon radiophonique se projeter dans les années 50, donc à Calgary, au Canada, où vous êtes né, derrière un poste de télé en noir et blanc.
Adios, adieu, adieu. Hello.
What's the matter? Don't you want your up now? What are you? Sorry about a little slap?
You really meant that?
Why, no.
Yes, you did. I can tell. I know your touch. I know a slap from a slug.
Well, okay.
I'm not so sure it is. I'm not so sure I care to expose myself to typical, instinctive, masculine brutality.
Oh, come on.
And it felt not only as though you meant it, but as though you felt you had a right to. I can tell.
What have you got back there? Radar equipment?
Théâtre de l'enfance.
Un théâtre tragique ou mélodramatique, on dirait, Nancy Houston, à écouter cet extrait de film.
C'est un film qui s'appelle en français « La femme porte la culotte » et avec Catherine Hepburn et Spencer Tracy qui ont une scène de ménage carabinée. Et c'est vrai que j'ai assisté à beaucoup de scènes de ménage de mes parents. Ma mère était, je pense on peut dire, une féministe avant la lettre. Peut-être avait-elle lu « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir, je ne sais pas. Il y avait souvent ce type d'éclat de voix et de portes qui claquent et parfois des fracas de vaisselle dans la maison. Et je pense que ma passion pour le piano a été une manière d'entrer dans cette dynamique du son et de le contrôler. Alors que dans les disputes, ça m'était imposé. Avec le piano, je pouvais choisir de jouer très très doucement et faire un crescendo et puis taper très très fort et contrôler les fortissimi. Ça me protégeait quelque part.
Et puis le piano, c'est aussi ce qui va vous permettre de garder le contact avec votre mère.
Effectivement, parce qu'elle et sa sœur étaient des petits prodiges du piano. Mais symboliquement, c'est vrai que c'est le fait de toujours suivre des leçons, de toujours travailler chaque jour mon piano, c'était toute ma vie et encore maintenant. C'est probablement un lien symbolique à ma maman parce qu'elle est partie donc très tôt. Elle est partie quand j'avais 6 ans. Sans couper les ponts du tout, sans claquer les portes du tout, mais c'était une voix lointaine qui arrivait par lettres et tout, et donc je pense que c'était une façon de lui parler dans mon cœur que de jouer du piano.
Dans Bad Girl, vous écrivez « Nous ne tombons pas du ciel, mais nous poussons sur un arbre généalogique ». Et pour vous, cet arbre se résume par deux mots au départ, « wasp » et « loser ». C'était ça vos ancêtres?
C'était ça mes ancêtres. WASP, c'est évidemment White Anglo-Saxon Protestant. Et mes ancêtres sont allemands, écossais, irlandais, anglais. Tout ça, c'était du protestantisme. Et puis, loser, on oublie souvent que l'Amérique du Nord a été peuplée beaucoup, beaucoup, par des gens qui avaient raté leur vie de ce côté-ci de l'Atlantique. Je pense à l'émigration irlandaise notamment, qui a concerné ma famille, mais qui a amené des milliers d'Irlandais à New York, par exemple, et dans l'Est, le Nord-Est des États-Unis, et qui a déclenché des émeutes anti-noirs, parce que c'était des pauvres blancs qui luttaient pour les mêmes emplois que les noirs. Bref, quand les Américains sont tonitruants et se vantent d'être le peuple le plus formidable de la Terre et luttent contre l'immigration, ils oublient complètement qu'ils étaient des pauvres immigrants. C'est ça la population américaine dans sa grande majorité.
Alors, dans sa vie, à Dorit, c'est
mon alter ego.
C'est votre alter ego, c'est devenu un personnage. Je ne sais pas si vous-même vous êtes devenu un personnage, Nancy Houston, ça pourrait être une question.
Je pense que nous le sommes pour nous-mêmes. Nous sommes tous des personnages pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'on peut lire des romans et se projeter dans la vie des autres, parce que nous construisons une image de nous-mêmes qu'on essaie de garder à peu près cohérente.
Dans sa vie, donc, qui commence au Canada, puis qui va se poursuivre d'abord aux États-Unis et puis en France, votre Dorit croise toute une foule de bourgeois, de babas, de hippies, de libertins marxistes, de profs de littérature et de psychanalystes tripoteurs. Vous rencontrez tout ça un petit peu comme sur un chemin d'initiation érotico-politique. Et d'ailleurs, ça va bien ensemble, l'érotisme et le politique.
C'est-à-dire que je me concentre sur ces années-là où c'est un coming of age, c'est le roman de formation, c'est ces années-là, effectivement, entre 15 et 25 ans. Mais plus j'y pense à cette histoire de MeToo et le tripotage et le harcèlement sexuel, plus je me dis que finalement c'est 100%. C'est-à-dire, c'est toutes les petites filles, à un moment donné, toutes les jeunes femmes, sauf si vraiment elles vivent dans un harem fermé ou si elles sont totalement voilées, ce qu'on n'appelle pas de nos voeux. Je pense que tout le monde, à un moment donné, vit cette chose-là parce que on est une espèce animale, il y a des réactions très naturelles de la part des hommes qui sont même pas de l'effet de leur volonté. Et nous, les jeunes filles, comme la société, surtout post-croyante, ne sait pas comment parler de ça, on n'en parle pas et on le vit d'une façon culpabilisante, là encore.
On ne parle pas de quoi exactement?
On ne parle pas du fait que les hommes sont programmés pour réagir physiquement à la vue d'une jolie fille. Et ce n'est pas une décision de leur part, c'est quelque chose qui leur échappe totalement. C'est une réaction réflexe.
Et les filles sont programmées pour quoi?
Et les filles sont programmées pour chercher un père solide et rassurant à leur progéniture future. Donc, pour moi, ça serait une chose importante pour nos sociétés contemporaines de reconnaître, de regarder en face cette chose animale et d'en parler sereinement.
Alors, parallèlement à cette initiation à la fois érotique et politique, on reviendra peut-être sur le politique, celle que vous appelez Dorit, Nancy Houston, reçoit par ailleurs une éducation typiquement nord-américaine, c'est-à-dire
typiquement nord-américaine, c'est-à-dire ahistorique et asociale, comme si chacun était maître de sa destinée, comme si chacun commençait le monde à neuf et héritait de tous les droits automatiquement, et donc je n'étais pas du tout consciente, par exemple, j'avais entendu parler de la théorie des classes, mais pour moi, ça n'avait aucune importance.
De la théorie ou de la lutte ?
La lutte des classes, mais simplement le fait qu'il existe des classes différentes. On ne parle pas du tout dans ces termes aux États-Unis, surtout à cette époque, peut-être un peu plus maintenant. Même le mouvement syndical n'a jamais pris aussi fort là-bas qu'ici. Et même si j'étais d'un milieu qui n'avait pas beaucoup d'argent, pour moi, ça allait de soi que, voilà, l'important, c'était le cœur, c'était l'âme, c'était la communication, c'était la perception du monde, le partage du monde.
Et on était dans une perception hippie aussi à ce moment-là.
Très hippie, donc c'était très retour à la nature, c'était let it all hang out, c'était, voilà, tout le monde s'aime, faites l'amour, pas la guerre. C'était une attitude qui arrangeait beaucoup les États-Unis, il faut dire, qui, pendant ce temps, pouvait conduire tranquillement sa guerre au Vietnam et d'ailleurs sa guerre secrète au Cambodge pendant le même temps.
Alors il se trouve que vous mettez en parallèle donc cette mad girl, cette mauvaise fille, et puis celui que vous appelez l'homme nuit, et alors qu'a priori aucun point commun entre cette belle occidentale individualiste et le révolutionnaire cambodgien, sauf peut-être des lèvres de pierre. C'est ce que vous allez nous raconter juste après une goutte d'Andreas Scholl. Une voix incroyable, c'est un grand contre-ténor allemand qui reprend cette chanson folk, I'm Poor, Wayfaring Stranger.
Wayfaring Stranger.
Pourquoi cette voix ?
Mais j'aime beaucoup les hommes qui laissent paraître leur féminité, et les femmes d'ailleurs qui laissent paraître Dieu de la virilité. J'ai toujours été bouleversée par cette voix en particulier, Andreas Scholl. Ouais.
While traveling through this world of woe, yet there's no sickness, toil, nor danger in that bright world to which I go.
Le soir, Dorit rejoint parfois Nathan dans un théâtre ou une salle de conférence à Manhattan. Elle y croise de grandes figures de la culture internationale, l'écrivain suisse Max Frisch, l'acteur britannique John Gielgud, le chorégraphe russe George Balanchine. Frappée par son air d'innocence fragile, ces hommes la saluent d'un baisement et lui manifestent une gentillesse toute paternelle. Souriant de ses lèvres de pierre, Dorit reprend le métro pour le Bronx et, avant de se mettre au lit, glisse dans le four la culture de yaourt pour son petit déjeuner du lendemain. Dire que cette année-là, Dorit n'est pas une activiste, une gauchiste, une contestataire, une militante, une passionnariat de la lutte contre l'impérialisme américain serait une litote.
M comme miroir, 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 miroir.
Non, Nancy Houston, on peut dire que pour Dorit, la Canadienne, la possibilité d'identification à Pol Pot commence, en tout cas dans votre imaginaire, à partir de ce sourire vide que vous appelez lèvres de pierre.
Oui, je pense que c'est le point de départ de ce livre, donc le titre aussi. C'est le fait d'être allé au Cambodge et d'avoir reconnu quelque chose d'inquiétant un peu dans le sourire cambodgien. Beaucoup de gens sont impressionnés par ce sourire qui a l'air tellement chaleureux, tellement spontané, tellement authentique. Et les gens qui connaissent bien le Cambodge savent au contraire que c'est un masque, que c'est une façon de mettre l'interlocuteur à distance plutôt que de l'inclure. Ça couvre l'intimité de la personne qui l'affiche plutôt que de le partager. Et je pense que je me suis reconnue dans ce sourire-là. Je crois que j'ai longtemps recouru à ce sourire aussi pour me protéger, pour juste montrer que voilà, tout allait bien et ne pas mettre en avant les abîmes que je pouvais avoir à l'intérieur.
Et puis un sourire de pierre qu'affichait ce fameux Pol Pot.
Voilà, Pol Pot qui avait une éducation bouddhiste et était très heureux dans le monastère où il a passé un an ou deux tout petit.
Après un début de vie familiale assez difficile où il ne trouve pas sa place, hein.
Voilà, c'est quelqu'un qui a grandi entre beaucoup de contradictions en fait. C'était à la fois une famille paysanne, mais c'était des riches paysans. Mais ils avaient des membres de la famille qui étaient au palais royal de Phnom Penh en raison d'un grand-père héros. Et donc finalement, il va aller à Phnom Penh, mais il va être d'abord au monastère où on sourit comme le Bouddha lui-même. Et on apprend à juste anéantir le soi et se fondre dans l'existence universelle. Ensuite, même pendant ces années-là, il va aller au palais et assister au ballet royal et aux grands festins qui sont complètement à l'opposé de ce qu'il apprend comme valeur au monastère. Après quoi, il sera à l'école catholique française de Phnom Penh et ainsi de suite.
Donc, il y a un enjeu, un autre enjeu, peut-être celui de la sexualité. Je ne sais pas si c'est une invention d'auteur.
Ça, c'est pour le coup une invention d'auteur. Je pense une invention assez vraisemblable qu'il aurait eu une histoire d'amour avec un de ses prêtre, professeur de cette école française. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'église catholique un peu partout dans le monde, je pense qu'il y a d'innombrables jeunes, garçons et filles, qui ont souffert des attouchements d'hommes frustrés. J'ai d'ailleurs écrit une lettre entre parenthèses au pape au mois d'août pour demander qu'il mette fin au célibat des prêtres, parce que c'est véritablement nier la nature humaine et créer finalement beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Bref.
Ce qui est sûr, c'est que ça, le tsar, avant de devenir Pol Pot, il s'appelle comme ça, il aura été violé, doucement violé, par les courtisanes du harem du roi.
Alors ça, c'est vrai. Ces femmes, les princesses qui sont venues à Paris plus tard quand elles étaient plus âgées, et elles en ont parlé en pouffant de rire probablement, mais je me suis dit que ça ne devait pas être très simple pour un garçon de 15 ans qui avait un idéal bouddhiste d'être utilisé comme jouet sexuel par des princesses, les courtisanes frustrées. Leur mari, le roi Monivong, ne les satisfaisait pas, ne venait pas les voir, elles s'ennuyaient, donc elles ont pris ce très joli garçon Pol Pot, enfin Salotsar, effectivement, comme il s'appelait encore, était un très beau garçon, grand, fin, très doux, et il a toujours beaucoup plu aux femmes.
Alors, dans ces lèvres de pierre, vous cherchez, Nancy Houston, des points biographiques de rencontre entre Dorit et Salotsar, et l'un des premiers se trouve peut-être être l'initiation communiste à Paris pour tous les deux.
Donc, à part ces initiations sexuelles et cette sorte de victimisation sexuelle aux mains de l'autre sexe, l'autre, effectivement, grand point commun, c'est que l'un et l'autre, on va venir à Paris boursier et on va se trouver dans le même quartier, les mêmes rues, on va habiter tout près du Panthéon. Et on va découvrir le dogmatisme marxiste français dans toute sa splendeur. Lui passe 4 années entre 49 et 53. Moi, j'arrive 20 ans plus tard seulement. Et ce marxisme d'après-guerre est toujours très vivace. Et comme on est fragiles tous les deux, comme on a justement été ballotté d'un monde à l'autre et qu'on est très peu sûr de nous, c'est extrêmement rassurant de pouvoir s'accrocher à une structure forte qui vous dit où est la vérité dans tous les domaines, à tous les sujets, et qui vous convainc que vous faites partie d'une lutte importante, essentielle, et que votre énergie, on en a besoin, qui vous sauve en fait de la solitude et de la déshérence.
Cette vérité, c'est le marxisme.
Cette vérité, c'était le marxisme pour lui, pour moi. Ensuite, moi, j'ai glissé plus vers le féminisme, mais c'est vrai qu'au bout de quelques années à Paris, lui est convaincu que désormais sa fonction dans la vie, sa mission dans la vie, c'est de sauver le Cambodge, et moi, c'est de libérer les femmes.
Il y a une date que vous vivez aux antipodes, l'un de l'autre bien sûr, c'est le 18 mars 1970, date où Sihanouk, qui est parti à l'étranger, va se faire renverser. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on manifeste contre le Vietnam.
Voilà, mais moi, je participe un tout petit peu à des manifs. C'est complètement ridicule, c'est dérisoire.
C'est pas votre histoire, le Vietnam, vous le dites.
C'est pas mon histoire, ça me regarde pas, je suis canadienne, j'ai pas envie, pourquoi est-ce que tout le monde parle de ça? Et encore une fois, les États-Unis profitaient complètement de cet individualisme, de ces soucis des femmes pour leur ligne, pour leur beauté. Les femmes sont en train de devenir anorexiques à ce moment-là. Je vais tomber dans ce panneau-là aussi et d'être obsédée par mon régime, parce que je mange et tout. Et évidemment, pendant qu'on pense à tout ça, on n'est pas en train de protester contre la guerre du Vietnam.
Alors, le grand point commun, bon, peut-être que c'est une dimension un peu psychanalytique, on peut s'aventurer sur ce terrain-là, on ne sait pas, on va voir, Nancy Houston, c'est que l'un comme l'autre, Dorit comme Pol Pot, vivent une forme d'effacement de soi qui va produire chez l'un et l'autre un désir de radicalité et d'absolu.
Oui, c'est ça. Et je pense que si j'ai écrit le livre, ce n'est vraiment pas pour me comprendre, ce serait presque le contraire. C'est, je me prends comme exemple, je force le trait, j'exagère même un peu la bêtise et la naïveté de Dorit à dessein pour aller plus loin, pour montrer comment les gens se radicalisent aujourd'hui aussi, et montrer que ça s'applique probablement à des radicaux de toutes les époques, que ce soit la Révolution française, qui a été un grand modèle aussi pour Pol Pot, avec l'extermination du clergé et de la royauté, que ce soit la Révolution russe, ou la Révolution cubaine, ou aujourd'hui la Révolution islamiste. Chaque fois que les gens sont dépossédés de leur identité, ne savent pas comment fonctionner quand il y a eu trop de violence et trop d'attaques de qui ils sont, et ça c'est complètement le cas pour le Cambodge dans ces années-là, alors les jeunes hommes, qui ont toujours besoin d'existence d'une autre façon que les femmes, à mon sens, vont se rallier autour d'un leader charismatique et être prêts à le suivre et à suivre ses ordres, y compris les plus terrifiants. Pour faire entrer les commandements dans le crâne des recrues, dit Pol Pot, les répétiteurs d'Ankar doivent avoir la voix forte et claire, comme celle des moines qui dirigent les prières au Vat. Abat l'émotion, le désir et la paresse. Abat la propriété, abat les usines, abat l'initiative, l'égoïsme, l'orgueil et les pensées compliquées. Abat les droits individuels, abat la famille, l'amour, la conscience, la réflexion, l'éducation. Vive la société agraire, vive le groupe, la lutte et le travail. Terminez la vie privée. Ainsi que le disait Saint Jus, tout homme âgé de 21 ans est tenu de déclarer dans le temple quels sont ses amis. Nous allons leur montrer à ces gens instruits, à ces snobs, à ces citadins, à ces intellos, nous allons les éduquer, ou plutôt les rééduquer à notre manière. Nous allons leur apprendre à mendier comme des moines et à se contenter de peu, un bol de riz par jour, non, moins, un demi-bol de riz, non, moins, un demi-bol de soupe de liseron. S'ils meurent de faim ou de dysenterie, ce sera leur destin. Pas la peine de nourrir les porteurs de lunettes, balle dans la nuque d'office, balle dans la nuque pour ces parasites qui se croient supérieurs, estiment importants les bulletins scolaires, ne comprennent pas qu'ils viennent de la terre et dépendent des paysans. Nul besoin d'argent, nul besoin de livres. Tout cela fait partie de la nouvelle société qui est destinée à être entièrement éradiquée. Les nouveaux doivent tout apprendre des anciens.
À te garder, on ne gagne rien. À t'éliminer, on ne perd rien. Il vaut mieux arrêter par erreur que libérer par erreur. Tuer un innocent par erreur vaut mieux que laisser un ennemi en vie. À te garder, on ne gagne rien. À t'éliminer, on ne perd rien. On nous enseignait ces mots comme base de réflexion pour qu'on ait une position ferme dans la destruction de l'ennemi. Si on ajoute qu'une dette de sang doit être payée par le sang, c'est du même ordre. On va vers un massacre sanglant au moindre obstacle.
Un extrait en sol majeur du somptueux documentaire de Riti Pan, Doux maître des forges de l'enfer, ça se passe en sol majeur sur RFI. C'est un documentaire qui zoome sur la figure du directeur de la prison S21, terrifiante machine à éliminer ce qu'on appelle les ennemis de l'Ankar, c'est-à-dire l'organisation de Pol Pot, S21 qui fera périr 12 380 prisonniers. L'ironie de l'histoire, Nancy Houston, c'est que votre Dorit, en 77, elle va soutenir l'idéologie de Pol Pot.
Voilà, c'est cette séduction du radical, de l'extrême, qui a quelque chose de religieux, en fait. Quand on a eu une foi religieuse dans l'enfance et qu'on l'a perdue ou égarée en chemin, souvent il y a une sorte de sursaut et retour du religieux sous forme d'engagement politique. C'était tout à fait le cas de Pol Pot, avec ce parti communiste français, dogmatique à souhait et radical à souhait, qui éliminait les gens. Il a appris cette élimination, ces réunions d'autocritique qu'il a utilisées plus tard avec les Khmer Rouges, il l'a appris à Paris, dans cette cellule dont il était membre.
Alors on suit ce parallèle entre ces deux figures, Dorit, cette jeune Canadienne fragile et qui se cherche idéologiquement, sensuellement, érotiquement, politiquement, littérairement, artistiquement, et ce jeune Salotsar qui va devenir Pol Pot. On comprend bien la dimension monstrueuse de Pol Pot. Où est la dimension monstrueuse de Dorit?
Mais Dorit, vers la fin du livre, on voit qu'elle est prête à envisager des solutions un peu à la Valérie Solanas.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire d'alléger la terre de quelque 90% de sa population masculine, parce qu'on n'a pas besoin de tant d'hommes. Ça peut être un peu comme chez les... le bouc et les chèvres, un seul bouc pour 20 chèvres, ça va.
Donc c'est le radicalisme féministe.
C'est ça. Et on oublie que Valérie Solanas, qui a tiré sur Andy Warhol, on aime bien juste citer ce fait divers, on oublie qu'elle avait écrit un livre racontant son viol aux mains de son père et que Andy Warhol a égaré le manuscrit du livre. C'est bouleversant quand on se souvient de ça. C'est pas une sorte de folle qui a débarqué un jour à New York pour tirer sur Andy Warhol. Et je pense que nous étions nombreuses parmi les féministes des années 70 à Paris à imaginer brièvement des solutions un peu dingues, un peu folles. Mais le fait est qu'aucun groupe féministe ne s'est jamais mis à massacrer les hommes nulle part dans le monde.
Mais alors en quoi ces deux trajectoires s'éclairent l'une l'autre?
Mais je pense qu'il y avait, ce mot lèvre de pierre est important parce que j'ai compris en fait ce que c'est le clivage. Comment me protéger en me séparant de ma propre douleur? Et je pense que c'est la première chose que font les légionnaires, que font les dictateurs, que font les prostituées, que font tous ceux qui savent qu'ils vont morfler. Ils vont prendre une attitude même pas mal. Et c'est ça qui permet toutes les monstruosités, en fait. Quand on dit quelqu'un est inhumain, en fait, la monstruosité n'est que humaine. On ne connaît aucune forme de monstruosité chez les animaux. Ils ne sont pas sadiques, ils ne sont pas cruels de façon gratuite, ils ne se persécutent pas à cause de la couleur de la peau, des choses comme ça. Il n'y a que nous qui sommes des monstres. Donc, en tant qu'être humain, mais en tant que romancière aussi, j'ai à cœur de comprendre ça de l'intérieur.
Dans quelle langue dites-vous l'amour?
Nancy Houston pour un sol majeur.
Dans toutes les langues que je connais.
C'est-à-dire?
Eh bien, j'aime beaucoup le mot love, mais j'aime amor. J'aime libre et j'aime amour. Ouais.
Et est-ce que l'amour ou la colère, ça fait remonter la langue maternelle?
Tout à fait. C'est assez comique quand j'étais jeune maman et que je me mettais en colère contre mes enfants. Mon accent empirait toujours et je perdais mes mots, je bafouillais, donc je devenais assez ridicule. Ce qui les faisait pouffer de rire et je ne pouvais plus garder ma pose de mère furieuse. Et c'est très bien, c'est très salutaire. Je recommande à tout le monde en fait d'élever leur enfant dans une langue étrangère. C'est excellent pour la civilisation des mœurs.
Vous avez grandi notamment avec Dickens, avec Milne, le papa de Winnie l'ourson, Mark Twain aussi, le papa de Tom Sawyer. Vous aviez tout ça dans la bouche très tôt, Nancy, et vous avez commencé à écrire très jeune en anglais. Le plongeon dans l'autre langue, comment est-ce qu'il s'est mis en place? Est-ce qu'il était finalement presque vital pour vous?
Ça a été vital, ça a été décisif, effectivement. C'est la raison pour laquelle je suis restée en France, même s'il y avait des raisons amicales et amoureuses aussi, mais j'écrivais plus facilement, avec plus de passion et moins de conscience. Vous savez, même si on est en train d'écrire un essai, mais surtout si on essaie d'écrire de la fiction, c'est comme peindre ou sculpter ou danser ou jouer du jazz. On a besoin de ne pas être là à se surveiller et à se demander si on fait bien, si c'est juste. On a besoin juste de faire. Et j'avais tellement de sur-moi et de sous-moi en anglais, sur-moi universitaire et puis le sous-moi enfantin. Et j'avais ni l'un ni l'autre en fait en français. J'avais pas d'étudiante thésarde qui était là à dire ça, c'est pas une bonne phrase et tout. Et j'avais ni un enfant complètement à la merci de la violence du monde qui hurlait à l'intérieur de moi. Et donc le français m'a été la parfaite distance pendant toute une période. Après, j'ai pu revenir vers la langue maternelle.
Ce qui fait que vous militez pour ce que vous appelez le patriotisme pour l'ambiguïté.
Oui, j'aimais bien ce titre de Simone de Beauvoir pour une morale de l'ambiguïté. J'ai écrit un essai une fois pour un patriotisme de l'ambiguïté. Je pense que c'est bien de sentir un certain patriotisme, même si j'en ai relativement peu, j'ai trop de patrie peut-être. Mais je suis contre le nationalisme, contre une fierté nationale qui va toujours virer vers le racisme ou l'exclusion. Donc un patriotisme de l'ambiguïté, c'est des choses que je peux sentir vis-à-vis du Canada, mais aussi de la France, mais aussi maintenant un peu de la Suisse. Voilà, j'ai des racines multiples. Je ne dis jamais je suis un nomade, je suis une citoyenne du monde. Je trouve ça extrêmement prétentieux, en fait. Les gens pensent être modestes quand ils disent ça, c'est très prétentieux.
Pourquoi?
Mais parce que, en fait, si on les plonge au milieu de la paysannerie chinoise, ils vont être totalement perdus. Et dans n'importe quel pays, un village africain dont ils ne connaissent pas la langue, ils vont être perdus. Ils ne peuvent pas maîtriser ces traditions-là, ces codes-là. Ce n'est pas parce qu'on en maîtrise 5 qu'on maîtrise 5000. Ce n'est pas vrai.
Tu saurais.
Comme Beckett, tu quitteras ta mère patrie et feras semblant d'appartenir à une autre. Tu ne seras ni d'ici ni de là, mais de l'entre-deux, c'est-à-dire de nulle part, assigné au limbe à perpétuité. Vu que la vie dans les limbes est une punition, tu te sentiras coupable, auras l'impression d'avoir commis un meurtre. Et ce n'est pas faux. Ta victime, c'est la femme que tu aurais dû devenir. Tu l'assassineras à l'âge de 20 ans, puis tu passeras ton temps à mentir pour dissimuler ton crime. Le fait de t'être installé dans une langue et un pays étranger t'obligera à mentir au long de ta vie adulte, tout comme tu as menti au long de l'enfance. Tu feras semblant que ton pays d'adoption est ton pays et sa langue ta langue, de même que dans l'enfance, tu as fait semblant que ta belle-mère était ta mère.
En attendant Beckett, parce que j'aurais rêvé d'entendre sa voix pour votre en sol majeur, Nancy Houston, on a un peu eu une difficulté. On va dire que c'est une rareté, la voix de Beckett. Je rappelle, dramaturge quand même irlandais, d'expression française essentiellement. Ça fait beaucoup de points communs avec vous.
Oui, j'ai une affection énorme pour Beckett, c'est vrai, qui a dit cette phrase délicieuse, « L'autotraduction est la seule forme de torture politique que j'ai connue ».
Et comment il faut le comprendre?
Mais c'est très très difficile de se traduire soi-même et c'est, il exagère de dire que c'est de la torture politique, mais quand on essaye de faire coïncider ces deux identités, finalement elles peuvent mener leur vie chacune de son côté. Je me rappelle une fois, j'étais dans un festival bilingue dans le New Brunswick au Canada, le Nouveau-Brunswick, et j'ai donné rendez-vous en anglais à Alberto Manguel et une bande d'autres amis anglophones, Richard Ford, etc. Et puis je suis partie dîner avec des amis francophones, j'ai complètement oublié le rendez-vous qu'avait donné mon moi anglophone. Et j'étais pas la même personne.
C'est joliment dit, hein. On faisait le parallèle entre votre monstruosité, entre celle de Dorit en tout cas, et la monstruosité de Pol Pot, et l'on évoquait cette machine de guerre qui a été S21 dans le Cambodge des années 70. Est-ce que vos livres à vous ont quelque chose à voir avec une chambre de torture? Est-ce qu'il y a une mise à exécution dans ce lieu qu'est l'écriture?
Ce serait trop fort de dire cela comme ça. Et en même temps, je pense que si j'ai pu recourir à cet exutoire qu'est l'écriture, c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait de bonnes rencontres, j'ai pu passer entre les gouttes des différents dangers qui se sont profilés sur mon chemin. J'ai aussi quelque chose, effectivement, de sombre. Je pense que nous l'avons tous. On a un côté homme-nuit ou femme-nuit. On a cette possibilité de se cliver, d'oublier les cruautés qui se déroulent juste à côté de nous, contre les animaux, contre les Africains. Nous savons pertinemment ce qui se passe avec les délocalisations, avec la pornographie, avec les abattoirs. Donc, sans parler de la littérature, parce que je n'aime pas trop l'image romantique de l'écrivain héros souffrant, mais simplement en tant que citoyenne du monde d'aujourd'hui, je sais que mes privilèges sont liés intrinsèquement à des gens qui souffrent ailleurs.
Vous avez eu plein de distances romanesques, je dirais, entre vous et votre terre natale. Et puis vous vous êtes laissé bercer peut-être par ce qu'on appelle une famille d'élection. Il y a des voix dans cette famille d'élection, des voix littéraires, comme celle de Romain Gary, qui évoque dans cet archive de 1970, ça va nous faire rire parce qu'il faut relire La promesse de l'aube, qui évoque tous les métiers dont rêvait sa mère pour lui.
Dans ces périodes de prospérité, au moment de la maison de couture, elle voulait que je sois un violoniste. Je n'avais absolument aucun don pour la musique. Mon professeur m'a fichu à la porte en grinçant des dents. Je n'avais pas d'oreilles et je n'en ai pas à ce jour. Ensuite, elle a voulu que je devienne danseur de ballet, je ne sais pour quelle raison. Mais malheureusement, l'instructeur s'est révélé un attoucheur, pour dire le moins. Elle l'a assommé, elle l'a battu avec sa canne, c'était fini. Elle m'a fait faire de l'escrime, du cheval. Quand elle avait de l'argent, j'avais des instructeurs pour tout. Et plus tard, elle s'était en quelque sorte braquée, quand j'ai commencé à écrire, sur la littérature. La seule chose dont elle ne voulait pas attendre parler, c'était de la peinture. J'ai commencé à l'âge de 10 ans à faire un peu de peinture. Elle m'a enlevé la peinture et les pinceaux en disant que tout le peintre mourait fou et syphilitique. Voilà, c'était son opinion.
Kay,
Kaléidoscope.
La voix de Romain Gary sur RFI pour en sol majeur, et ce que Romain Gary disait me rappelle cette phrase de Sartre: j'étais l'enfant, un monstre qu'ils fabriquent avec leurs rêves.
Oui, sa mère voulait qu'il rachète toutes ses souffrances, tous ses sacrifices. C'est une femme très puissante qui a eu un impact énorme sur Romain Gary. Mais il est devenu peintre pendant un temps. Il s'ennuyait tellement quand il était consul français à Berne, en Suisse, qu'il s'est mis à peindre, et il était tellement angoissé qu'il a fini par bouffer ses toiles, ses propres toiles.
Wow. Je rappelle, il est né en 1914 à Vilna, dans ce qui était à l'époque l'Empire russe, et il aura eu de multiples vies: aviateur, effectivement diplomate, romancier, essayiste. Émile Ajar, ça a été aussi une de ses vies. Et j'ai l'impression que tous ces moments d'apparition, disparition de Romain Gary vous intéressent, Nancy Houston.
Oui, c'est quelqu'un à qui je me suis beaucoup intéressée. J'ai fait un petit livre, Tombeau de Romain Gary, il y a maintenant une vingtaine d'années. Gary, c'est un exemple de ceux, pour moi, à mon sens, qui ont essayé de trop se projeter dans absolument tout le monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles, probablement, il a mis fin à sa vie. Il a eu trop d'existence, il a eu trop de compréhension. Il l'a résumé de façon désopilante en disant: la plus grande force spirituelle de l'humanité, c'est la connerie.
Et terriblement voilà. D'actualité, cette phrase.
Et oui.
Il y a une autre figure dans votre kaléidoscope qui compte pour vous, c'est celle de cet ancien psychologue américain qui a travaillé à un moment donné pour les autistes et puis qui s'est fait connaître sous les traits du clown Buffo. Pourquoi sa personnalité vous a travaillé de l'intérieur?
Mais j'ai très bien connu Howard Buten, l'auteur donc de « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué », génialement traduit par Carasso. Mais c'est quelqu'un qui était très proche des gens handicapés dont il s'occupait. Je pense qu'il comprenait ce handicap, cette difficulté de communication de l'intérieur. Il a un peu incarné sur scène avec son Buffo, qui était un personnage à la fois très drôle et très peu sûr de lui, et donc devant aussi courir, un peu comme Romain Gary, courir dans tous les sens, chanter de toutes les manières possibles et imaginables, jouer de tous les instruments, danser, essayer d'exister, de plaire.
Mais qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ce que vous appelez le multiple ?
Eh bien, je pense que nous avons tous cette capacité en nous, la capacité du multiple, et par peur, nous avons tendance à nous cramponner à ce qui est rassurant, ce qui est donné, ce qui est sûr et évident. Et cette tendance-là est en train de nous gâcher la planète Terre. C'est probablement une chose qui est programmée dans notre disque dur, de dire nous et les autres. Mais la littérature et tous les arts, et aussi les artistes comme Romain Gary ou Howard Buten en particulier, sont là pour fêter et explorer comment on peut élargir les frontières du moi, laisser entrer de l'altérité sous différentes formes, percevoir cette altérité comme une fête et ne pas réifier, calcifier son identité.
Mmh. Et si on fermait les yeux? Et si on ouvrait les fenêtres? Nancy Houston sur RFI pour en sol majeur. Nancy est l'amour de l'ailleurs et de l'eau. À quoi correspond cet amour de l'eau?
Oui, je crois que sans doute ma ville natale de Calgary, dont le nom signifie l'eau limpide et coulante. Je pense à une phrase de Göran Tunström, qui est un de mes auteurs préférés, dans l'Oratorio de Noël. Il dit: mais qu'est-ce qui permet de continuer? C'est le son qui va et qui vient comme de l'eau sur les pierres. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est l'idée que le temps avance.
Mais même si vous êtes dans cet univers qu'on appelle autofiction, donc dans une forme d'écriture intimiste, vous êtes toujours connecté à la fureur tragique du monde. Est-ce que l'eau n'est pas un peu la métaphore de toutes vos colères féministes, politique, philosophique?
résultat. C'est un peu aux autres de l'analyser. Je trouve qu'on ne peut, on doit pas essayer de comprendre ses propres symboles. Virginia Woolf, c'est quelqu'un qui a énormément écrit sur l'eau et qui est morte dans l'eau. Je ne sais pas si pour moi c'est une métaphore de ceci.
C'est une piste de réflexion. On va terminer sur cette image de vous que je garde, jeune fille, petite fille, enfant, et ses multiples déménagements au Canada. Buffo dit qu'il habite lui dans un piano. Et vous, vous habitez où aujourd'hui?
C'est beau. Oui, mais maintenant je suis encore à cheval entre deux, à cheval sur les Alpes notamment. J'ai une maison en Suisse et une petite maison à Paris. Mais où est-ce que j'habite? Oui, j'habite le temps, j'habite mon temps. Il y a une grande inquiétude sur l'environnement qui m'habite, et ça c'est la chose la plus nouvelle. Donc j'habite le temps d'une façon très différente aussi, en me disant que l'avenir n'est peut-être pas aussi long qu'on l'imaginait.
En sol majeur @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur un petit peu humide, consacré à Nancy Houston, deux livres chez Actes Sud, Bad Girl, classe de littérature, c'est un classique aujourd'hui, et puis Lèvres de Pierre qui vient donc de paraître. Est-ce que pour refermer cet En sol majeur, vous pourriez nous faire pouf pouf entre Nina Simone et son Mississippi Goddamn? Je le dis très mal, mais c'est toujours délicieux à dire quand même. Ou Artie Kaplan?
Je veux bien Nina Simone.
Pourquoi?
Oui, parce que je trouve que cette colère est magnifique. Je trouve qu'on ne parle pas assez de tout ce que les femmes noires ont apporté aux femmes blanches dans le monde.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows. Sitting in jail, black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Just about do. I've been there, so I know. They keep on saying, go slow. Well, that's just the trouble. Too slow. Washing the windows. Too slow. Picking the cotton.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière le poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, donc ça fait 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Jérémy Besset, Yasmine Chouaki. On vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec Soko Fai, historienne du Cambodge. Donc vous restez avec nous, Nancy.
Eh bien oui, merci.